Les déchirures de Paul. Il avait un sourire dans lequel on plongeait comme on badigeonnait du bonheur sur nos tranches de pain le matin. Conteur, pince sans rire, mais aussi tellement crédule parfois, cet homme ne cessait de concevoir, de créer, d'imaginer des fonctions nouvelles, différentes, aux objets de tous les jours. Il prenait une vieille lessiveuse, l'une de celles qui était chapeautée d'un tordeur, démontait le tout, ajustait certains mécanismes, retirait le tordeur devenu inutile et concevait un malaxeur à terre noire pour son jardin, potager et ceux des voisins. Évidemment, le bonhomme bisaillon à côté trouvait ce personnage propriétaire du terrain contigu au sien plutôt bizarre, mais bon, que voulez-vous? Paul écoutait de l'opéra, alors que l'autre ne jurait que par Ed Sullivan le dimanche soir à la télé américaine et les blagues de Tigus et Timous.
Hey, dis donc, j'ai quelque chose à te raconter.
T'as quelque chose à me raconter?
La figure tenant, il y a une fille qui va aller se confesser, tu sais. Oui. Elle dit, mon père, je m'accuse d'avoir fait un péché d'orgueil hier soir.
Péché d'orgueil?
Hey, il dit, qu'est-ce que vous avez fait, ma fille?
Oui.
Ben, elle dit, figurez-vous, je me suis regardée dans un miroir et je me suis trouvée assez belle.
Ah oui?
Ouais, là, il s'est penché, il a regardé dans le petit carreau.
Oui.
Il dit, pas un péché, ça, ma fille, c'est une erreur.
Une erreur.
Difficile d'arriver à un terrain, disons même un terreau d'entente, même quand on est séparé par une langue commune. Depuis sa tendre enfance aux États-Unis, où son père est décédé d'un accident de voiture, dans les bras de sa femme, et où cette dernière est revenue au Québec à 25 ans, veuve et mère de 5 enfants, Paul étant le second, il a toujours cherché à comprendre la vie autrement que de la façon prescrite par les curés des collèges, où on l'inscrivait en septembre pour le voir être mis à la porte en mars pour faute sibylline, de mauvaises notes ou d'absence d'attention. Ces bulletins successifs portaient les mentions « élève absent »,« distrait »,« peut mieux faire »,« énigme sur deux jambes ». C'est même allé jusqu'à « obtus, rien à faire de cet enfant, bon pour le travail d'usine et encore ». Par contre, en classe de dessin ou de leçon de choses, appellation fourre-tout pour les sciences naturelles, l'éveil à la technologie et autres, il décrochait régulièrement des résultats vraiment supérieurs. Mais bon, quand on est élève dans un collège où l'on se targue de former des avocats, des notaires, des médecins et, évidemment, des prêtres, être un technicien dessinateur, créateur et inventeur, c'est plutôt bas de gamme. Tant bien que mal, Paul a réussi à compléter des études secondaires. Il a travaillé en usine, où il a même proposé une amélioration technique à une chaîne d'approvisionnement.
« Femme ta gueule, petit gars, il travaille !»
Quelques mois plus tard, la proposition a été retenue, mais pour la reconnaissance, on repassera.
« Tu te penses bien bon avec tes idées, toi, hein ?»
Ben, il sait-tu. À 19 ans, on le retrouve dans la marine de guerre canadienne, embarqué sur un destroyer qui accompagne les convois transatlantiques, au nez des U-boats nazis, puis sur un autre, escortant des cargos remplis de munitions du port de Glasgow en Écosse jusqu'à Mourmansk, en Sibérie, pour alimenter le front de l'Est. Les Anglais appelaient ça de Mourmansk Run. Plus prosaïquement, nous disions les convois de Russie. Il a été décoré pour ça. Médaille de l'Atlantique avec barrette pour service en zone de conflit. Mais ça, au retour en 1945, ça n'avait que peu de valeur ici. Cette médaille et les autres sont allés côtoyer l'oubli dans le fond d'un tiroir. Évidemment, comme seul Frog à bord, il devait se taire ou parler blanc quand il s'exprimait. « Speak white, you motherfucker !» Celle-là, il en connaissait toutes les déclinaisons, même les latines de ses années de collège. Malgré, ou grâce, je ne sais trop, à ses avanies, il gardait dur comme fer la certitude qu'il arriverait à réaliser ses rêves. Il a conçu un système double, l'un d'alimentation et l'autre de ramassage des dépôts à terme, les crottes, quoi, de la trentaine de lapins qu'il a eus avec son frère Claude. Il a construit 3 kayaks en lamelles de bois courbées, recouvertes de toile imperméable. Il a fabriqué son propre télescope et tutti quanti. Et il a aimé. Paul a aimé, profondément, furieusement, à s'en déchirer l'âme et le cœur. Durant ces années d'après-guerre, Paul a rencontré une fée. Elle s'appelait Thérèse, du même prénom que l'une de ses sœurs. Entre les deux, c'est le coup de foudre, le vrai, le profond, l'immense. Ah, je sais. Roméo et Juliette a été raconté des dizaines de milliers de fois, mais quand cette tragédie shakespearienne ne se joue pas sur les planches ou sur un écran, elle a un immense pouvoir de déchirure. Se sont élevées des âmes bien pensantes pour séparer ses amoureux, mettre un terme, un holà, à cette union possible, vraiment inadéquate. Allons donc, un ancien marin qui devait avoir une femme dans tous les ports, un homme qui n'a même pas complété des études classiques correctes, qui est un dessinateur industriel, soit, mais qui a dû reprendre ses examens de mathématiques de résistance de matériaux 4 ou 5 fois pour cause d'échec. Un rêveur. Voyons donc. On faisait aussi valoir le fait qu'il était orphelin de père, que la famille avait vécu des années sombres, des suites du krach de 29. Et j'en passe et j'en rajoute, et qu'on envoie la demoiselle parfaire ses études à Paris, où là, la vraie culture, le vrai savoir-vivre est reconnu. Paul a mis des années à s'en remettre. Pas de contact, pas d'adresse, rien, silence. La force de sa capacité de rêver lui a permis de se refaire une vie, d'ajouter une carapace, d'essayer de cloîtrer cette déchirure en l'envoyant rejoindre les médailles dans le tiroir. Enfin, il aime à nouveau, mais différemment. Il aime avec sa tête, sa raison. Il aime comme on disait qu'il fallait aimer à la fin des années 40 et au début des années 50. Une épouse, Françoise, 3 enfants et une hypothèque plus tard, Paul est à la croisée des chemins de carrière. Il a fait des gaffes, toujours perdu dans ses rêves d'invention, dans son désir de création. Il perd des emplois, retrouve des boulots, démissionne ou risque de faire fortement flancher les finances de sa famille. Sa femme est forte, solide. Celui qu'elle a épousé, celui qu'elle a cru épouser, n'est pas celui qu'elle a devant elle. Cet homme est déchiré de l'intérieur, perdu dans les méandres de sa vie. C'est à elle qu'il doit d'avoir encore un toit au-dessus de la tête. Ses frères le tensent, lui lancent des ultimatums. « Prends tes responsabilités, tu es chef de famille, tu as 3 enfants, etc. » Eux ne comprennent pas l'ouragan qui fait rage dans son être. Et encore, de quel droit peut-il subir une tempête intérieure? Il n'a qu'à éteindre le tout. « Quand on est né pour un petit pain, on s'en contente », lui répétait sans cesse Françoise. Lui cherche tant d'y arriver, mais il est omnubilé par un désir de création plus grand que tout. Tous les grands artistes, tous les créateurs, qui ont vécu ces douleurs profondes de la création, de l'incertitude et des doutes, de la froidure des décideurs financiers, reconnaissent ces affres, des crues de vagues et des refus. Pourquoi penser économie d'énergie quand le baril de pétrole n'est qu'à 3 dollars? Et toute cette litanie autour des gaz à effet de serre, de la pollution et de la fonte de la calotte glaciaire? Non, mais quel pelleteur de nuages! Lui tenait bon, travaillait, étudiait, fonçait, se relevait et doutait. Il y avait belle lurette que la complicité du couple avait volé en éclats. Elle s'était résignée. Elle élevait ses enfants, faisant de son mieux pour éteindre les feux financiers qui surgissaient trop souvent. Lui se retirait de plus en plus souvent dans son antre, au sous-sol, où il étudiait, concevait et mettait au point son grand œuvre, celui de sa raison d'être sur terre. D'un sillon à une crevasse, le silence est devenu canyon. C'est alors qu'il l'a vue. Elle était là, employée à la bibliothèque de Montréal, où il faisait régulièrement des recherches techniques. Elle l'avait vu et reconnu depuis déjà quelques mois, mais n'avait osé lui parler. « C'est toi ?»« Oui. » »«
J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours. »
Ce fut en même temps le début du début et le début de la fin. Ils n'ont eu qu'une huitaine d'années ensemble. Sa femme l'a quitté, évidemment, emmenant les enfants avec elle, mais n'a jamais réclamé de pension alimentaire. Dans la tourmente qu'elle a vécue, elle est restée noble, fière et droite jusqu'au bout. Même qu'à la mort de Paul, un des frères du défunt s'est occupé des funérailles, cercueils, salons funéraires, églises, chorales, etc., tout en s'assurant de faire parvenir à la veuve toutes les factures qu'elle a payées, bien que séparées depuis des années. Paul est mort comme il a vécu, dans une mauvaise période. Il n'avait que 52 ans. Ses inventions sont peu à peu tombées dans le domaine public, et bien que quelques projets, voyant le jour aujourd'hui, bonifiés, améliorés évidemment, tirent leurs origines de ses idées d'alors, le crédit est omis. Mieux, passé sous silence. Paul et Thérèse ont connu le bonheur qui leur a été refusé quand ils avaient une vingtaine d'années. Un bonheur qui a eu des répercussions. On ne lance pas une pierre dans l'eau sans que des rides, des vaguelettes et même des torrents ne se produisent. Familles et amis ont choisi, certains ont accepté, d'autres ont condamné. Ses enfants ont tenté de comprendre. Françoise a pris soin de sa douleur du mieux qu'elle a pu. Au salon funéraire, où elle était persona non grata, Thérèse a réussi à passer incognito un matin avant l'heure d'ouverture, grâce à une dame, employée, à qui elle a raconté son histoire. Elle a pu dire adieu à son Paul. Elle l'a pleuré par la suite jusqu'à son dernier souffle. Interdite d'église par le clan des adultes, frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de Paul, sauf Jeanne, la belle-sœur au cœur grand comme l'univers, elle s'y est tout de même retrouvée, s'étant faufilée incognito parmi les grenouilles de bénitier du fond à droite. Je l'y ai vue, je l'ai reconnue, je lui ai envoyé ce que j'ai pu de réconfort. Pendant les trop courtes années qu'il lui restait à vivre, elle avait rendu mon père heureux.